Bonsoir, comment allez-vous? Pourquoi nous qui ne sommes pas méchants, aimons-nous savoir qu'une fille belle, mince, célèbre, talentueuse, élégante, intelligente, drôle, mère d'un ange, épouse d'un homme mystérieux qui en a fait rêver plus d'une, une fille qui, sans être aussi riche qu'on ne le fantasme, l'est quand même un peu plus que nous, cette fille-là, qui a tout ce qu'on croit qu'il faut avoir pour être heureux, nous chante qu'elle ne l'est pas tant que ça. Ce n'est pas le malheur des autres qui nous réjouit, enfin j'espère. C'est la révélation que la sérénité n'est peut-être pas là où on l'attendait. Mais alors où est-elle ?
France Inter, État d'esprit, Noël Bréham.
Françoise Hardy, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venue jusqu'ici par un temps pareil.
Oui, vous pouvez me remercier, j'ai pesté contre le temps.
C'est vrai. C'est merveilleux d'avoir quelqu'un d'aussi multifacette. Du coup, je ne sais pas très bien par quoi commencer. Allez, l'artiste. Côté chant, de tous les garçons et les filles de mon âge à rendez-vous dans une autre vie, mais aussi côté écriture. Et c'est super de lire quelqu'un qui écrit des chansons. Parce qu'une chanson, c'est un roman ou un film en 3 minutes, disons. Et donc, vous arrivez extraordinairement à évoquer la vie, le monde, l'infini en quelques mots. Et ça, c'est méga jouissif. Alors, après la forme, le fond, vous êtes l'écrivain de l'intime et des grandes questions. Entre l'intime et les grandes questions, il y a aussi la vie sociale. Anne Romanoff disait « La vie privée des hommes politiques ne nous regarde pas, mais elle nous intéresse ». C'est un peu la même chose pour toutes les célébrités que l'on aime, que l'on suit. Et vous nous intéressez par ce qui vous est aussi arrivé récemment, une aventure terrible que vous racontez dans ce dernier livre, « Un cadeau du ciel », édité chez Équateur. Ce cadeau, c'est la vie qui vous a presque quitté. C'est pas une NDE, comme on dit, vous n'êtes pas morte puis revenue, mais vous êtes passée si près du bord que vous n'en revenez toujours pas d'être encore là et que vous vous demandez qui a fait quoi dans cette histoire, Françoise Hardy.
Oui, c'est vrai.
C'est ça.
Vrai. Mais j'ai découvert. Donc, j'ai eu cet accident à l'hôpital où je m'étais rendue parce que je me sentais de plus en plus mal à cause du lymphome qu'on m'a diagnostiqué en 2004 et avec lequel j'ai vécu tant bien que mal pendant pas mal d'années. Puis d'un seul coup, ça s'est dégradé. Donc, j'avais pris l'initiative d'aller à l'hôpital et puis malheureusement, j'ai glissé lamentablement dans la douche. Dès que l'eau a coulé, paf, j'ai glissé et je me suis cassé tout le côté droit et encore heureux que je ne me sois pas cassé le cou parce que la seule chose dont je me souvienne, c'est du choc très violent de la tête contre le carrelage. J'aurais pu me fracturer le crâne ou quelque chose comme ça. Et je me suis... Il y a eu une période de 3 semaines où j'étais entre la vie et la mort, mais je ne m'en rendais pas bien compte parce que je n'étais pas consciente tout le temps. Et les moments où j'étais consciente, je me rendais compte qu'il m'était arrivé quelque chose de très embêtant, mais je ne mesurais pas du tout à quel point et je ne savais pas ce qui m'était arrivé exactement. Et je l'ai découvert très, très, très progressivement. Donc il y avait plusieurs médecins parce que j'ai eu des problèmes pulmonaires graves.
Vous êtes venu pour une chose et vous en êtes arrivé une autre. Alors déjà, vous aviez double tracas.
Si vous voulez, il y avait plusieurs médecins puisqu'il fallait un pneumologue. On m'a opéré des poumons, on m'a opéré du coude, on m'a opéré de la hanche et c'était des chirurgiens différents pour tout ça. Et celui qui chapeautait, c'était mon hématologue oncologue que je connais depuis quelques années. Et donc un jour, il a téléphoné à Thomas qui venait chaque jour pour lui dire que c'était la fin et que il faudrait qu'il fasse revenir son père de Corse le plus vite possible. Et donc moi j'ai su ça, alors j'ai d'abord dans un premier temps je me suis dit oh là 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 mais qu'est-ce que j'étais infligée là à Thomas qui a beaucoup de, enfin il a une espèce de sensibilité qui l'enrichit mais qui en même temps le fragilise, hein, c'est toujours à double tranchant. Du coup, je me suis dit, oh là là, mais ça a dû lui faire un choc quand même qu'on l'appelle pour lui dire ça. Bon. Et mais ça m'a pris encore du temps parce que j'impute tout ce temps dont j'ai eu besoin pour comprendre un peu au fait que j'ai été quand même abrutie de médicaments, de morphine, de choses comme ça. Et j'étais perfusée quand même 24 heures sur 24 avec des tas de choses pendant facilement 3-4 mois.
Oh là là.
Donc, après avoir su qu'il y avait eu cette annonce du médecin à mon fils Thomas, j'ai fini par me dire, mais Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?
Est-ce que vous vous souvenez, Françoise Hardy ? Vous êtes drôle parce que vous dites en rigolant que vous êtes tombée dans la douche. C'est marrant cette façon que vous avez d'être hyper grave. Et par moments, vous arrivez à rire de vous-même, ce qui n'est pas si fréquent. Et puis, vous partez sur des petites choses comme ça, qui vous amusent, qui vous font rire. Vous arrivez à avoir le regard.
Oui, vous savez, j'ai un ami, lui et moi, plus les choses sont dramatiques et plus ça nous fait rire. On a des fous rires avec ça, dont on a un peu honte, mais comme on est entre nous, donc en fait, on se laisse vraiment aller. Et je dis toujours à ce sujet que l'une de mes chansons préférées, j'en ai développé une chanson préférée, c'est « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Alors là, voilà. Donc, quand il y a une succession de choses plus catastrophiques les unes que les autres, il arrive un moment où, pof, au lieu d'être consterné, on éclate de rire. Oui, on éclate de rire.
C'est gros, c'est drôle. Oui. J'aimerais que vous me disiez si vous vous souvenez quand vous êtes revenu. D'abord, vous avez évoqué Thomas qui venait vous voir tout le temps.
Oui, je ne m'en rendais pas compte.
Et non, vous étiez dans le coma ou inconsciente, je ne sais pas comment on
dit.
Oui,
j'étais inconsciente. Je sais qu'il y a eu un coma artificiel parce que je souffrais. Trop physiquement.
C'est pas facile de parler à quelqu'un qui est dans le coma.
Quelqu'un
qui répond pas, c'est pas
moi
facile.
Moi, je ne sais pas comment il a fait. Il m'a dit que j'ouvrais les yeux par moment. Il me récitait des textes de Georges Brassens, en fait. Il adore Brassens et moi, j'ai toujours beaucoup aimé Brassens. J'ai même eu la chance, d'ailleurs, de le rencontrer.
C'est vrai ? Il était comment ?
Il était exactement comme on imaginait. Enfin, c'est rare quand même que quelqu'un soit conforme tout à fait à l'idée qu'on s'en fait, mais il était exactement comme on pouvait l'imaginer et l'espérer.
Vous étiez intimidée ?
Ah oui, complètement. Ah ouais, complètement. Ouais. J'avais participé à une émission de Michel Arnaud. Et donc, je l'avais rencontré à cette occasion. Il fallait que je lui pose des questions. J'étais tétanisée, vraiment.
Si vous voulez bien, on écoute votre fils Thomas qui évoque ces textes de Brassens qu'il vous disait à l'hôpital.
Mais c'est vrai que je me suis retrouvé à lire ce texte et d'autres, les premiers textes de chansons. Et je me suis dit d'ailleurs que c'était très joli sans musique. Presque, on pourrait le faire avec et sans musique. On essayait avec la musique, avec un peu de musique ou...
Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute. Le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie, contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis, contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi.
Oh, ce sont des merveilles ces chansons-là, vraiment.
Ce sont des merveilles. Hein.
Oui, oui. Je suis contente d'ailleurs qu'il aime tellement Brassens parce que c'est vraiment une des meilleures références que l'on puisse avoir.
L'interprète aussi est une merveille. Hein. Il se débrouille bien.
Oui, Thomas. Oui. Et puis il a pris de l'assurance. Là, on sent qu'il est un peu impressionné.
Vous le sentez,
parce que,
mais pas moi.
Oui, là, on le sent un peu, mais j'ai vu ses dernières prestations sur scène. Sur YouTube, et je trouve qu'il a pris beaucoup, beaucoup d'assurance et que vocalement, il n'y a pas photo avec ses premières prestations chantées.
C'est fort, hein, le lien qui vous lie à votre fils, qui n'est pas d'ailleurs aberrant, une mère à son fils.
Oui, je pense que c'est très, très fréquent.
C'est très, Dieu merci. Mais en plus, vous êtes des artistes. Mais vous expliquez dans votre livre que vous êtes Capricorne et qu'il est Gémeaux, que ce sont les signes les plus éloignés.
Pour l'astrologie moderne, ce sont les signes inverses parce qu'ils se définissent par une formule qui est inverse à la nuit dominante et décroissante du Capricorne, correspond le jour dominant et croissant des Gémeaux.
Ah vous voyez, 21 décembre, 21 juin.
Ce qui définit un signe, c'est toujours le rapport jour-nuit qui vaut pour le Soleil, mais pour les planètes, c'est le rapport durée de présence au-dessus de l'horizon, durée d'absence en dessous de l'horizon. Et la formulation, qui est plus complexe que ce que je vous ai dit, mais pas beaucoup plus, est différente vraiment et spécifique pour chaque signe.
Mais vous êtes des artistes en plus. Vous vous comprenez en tant qu'artiste ?
Oh, écoutez,
vous faites le même métier quand même.
Oui, mais bon, moi je ne savais pas du tout qu'il serait artiste, parce que quand il était petit, j'aurais aimé qu'il fasse de la musique, comme tous les parents. Hein. Tous les parents veulent que leur enfant fasse de la musique, mais il ne voulait pas. Puis alors, on ne pouvait pas lui faire faire ce qu'il ne voulait pas faire, et puis en plus, ça ne sert à rien, parce que ça braque à vie, souvent. Et puis finalement, il a découvert Mathieu Chédid et Pierre Souchon, qui avaient une petite formation et qui jouaient ensemble. Et alors là, il a voulu faire pareil. Mais jusque-là, et puis même après, évidemment, il était surtout doué pour les maths. Moi, d'ailleurs, je me demandais de qui il tenait, parce que ni Jacques ni moi ne sommes doués pour ce genre de choses. Et il était très, très doué pour tout ce qui était physique, mathématiques, etc. Et je pensais que c'était son chemin tout tracé, de faire maths sup. Mais quand il a été question de faire des études supérieures, comme il avait un cousin qui avait fait maths sup, il ne voulait pas de cette vie-là. Il était très déterminé aussi à ne pas faire maths sup. Et à faire de la guitare. Alors, il a commencé la guitare très tard.
Finalement, les enfants ne font jamais ce à quoi on s'attend.
Ben non. Non, non, non.
My Enemy Parcel, ce sont des jeunes Australiens.
Noël Bréham, état d'esprit.
Françoise Hardy ce soir avec nous dans État d'Esprit. Justement, Françoise Hardy, tous vos livres seront bien sûr sur le site d'État d'Esprit, mais nous parlons du dernier qui a ce beau titre, Un cadeau du ciel, et c'est édité chez Équateur. Vous parlez de beaucoup de choses dans ce livre. Vous racontez bien évidemment cette aventure terrible qui a été votre maladie, qu'on évoquait il y a un instant, votre accident. Vous avez beaucoup parlé de souffrance psychique, parlé d'amour, mais vous n'aviez pas tellement parlé de souffrance physique. Quelle est la différence en fait? Parfois on dit... On souffre plus, moins. Il y a des gens qui disent, mais mon Dieu, la souffrance psychique est beaucoup plus forte.
Et puis oui, puis je ne sais pas qui a dit l'inverse, qui a dit, les souffrances psychiques, je m'en débrouille, mais alors la souffrance physique, quand ça atteint des certaines proportions, oui, c'est insupportable. Écoutez, moi j'ai quand même eu de la chance dans mon malheur, parce que je sais qu'il y a des souffrances physiques bien pires que celles que j'ai connues, ou alors celles qui étaient vraiment les pires, ça n'a pas duré trop longtemps.
C'est une consolation, ça, Françoise Hardy, de penser que quelqu'un souffre encore plus ?
Ah non, pas du tout, pas du tout, justement. Et comme je veux pas de ça, j'ai toujours, mais depuis très longtemps, quand j'étais adolescente déjà, j'ai toujours été partisane de l'euthanasie. Ça veut dire que quand on est en fin de vie et que on passe par des souffrances qui sont insupportables, moi je trouve qu'il faut les abréger, quoi. C'est tout simple. Je trouve que l'être humain a droit à ce à quoi les chiens et les chats ont droit. Qu'on abrège leurs souffrances.
Oui. D'ailleurs, vous dites que vous n'avez pas peur de la mort et que vous aimez l'expression « rendre l'âme ».
Non, moi, j'ai peur du mourir. J'ai peur du fait de mourir. Le fait d'être mort. Enfin, comme je suis croyante à ma manière, donc je pense qu'une fois qu'on est mort, on a accès à ce qui nous a intrigués tout au long de notre vie. Enfin, bon, je suppose. Je ne peux pas vous le garantir à 300%.
Mais vous aimeriez bien.
Non, mais je suis curieuse quand même. Voilà, il y a une curiosité par rapport à ça. Mais le fait d'être en train de mourir, ça, c'est quelque chose qui me terrifie, comme tout le monde. Hein. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tout le monde, et moi la première, on a envie de mourir dans notre sommeil ? C'est justement pour ne pas être conscient qu'on est en train de mourir. Parce que quand vous êtes en train de mourir ou que vous avez cette impression, et moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, parce que j'avais eu un décollement de plèvre en 2005 et je savais pas du tout ce que c'était. Je croyais que j'avais un problème cardiaque et c'était tellement... On souffre tellement que vraiment...
On pense que sa dernière heure est arrivée.
Oui, on pense à ça et puis surtout, on pense qu'à une chose, c'est que ça s'arrête.
Ouais,
voilà.
Je comprends.
Mais il y a aussi une autre souffrance qui se rajoute parce que, à partir du moment où on est persuadé qu'on est en train de mourir, il y a vraiment, vraiment le chagrin de quitter les gens qu'on aime et puis peut-être de leur faire de la peine aussi.
Oui, ça vous inquiète de laisser votre fils en vous disant, vous n'êtes pas son unique guide, mais vous êtes probablement partie de ses guides.
Ça ne m'inquiète pas, mais ça me chagrine pour moi. Enfin, c'est quand même une séparation. On ne sait pas si on se retrouvera, quand, comment. Tout ça est très mystérieux. Mais c'est la séparation d'une certaine manière définitive. Donc ça, c'est très, très douloureux, vraiment.
Séparation des corps. J'aurais plus jamais mal aux dents, chantait Georges Brassens, dont on parlait tout à l'heure.
Oui, ouais. Moi aussi, je me dis, par rapport, vous savez, à tous les petits problèmes qu'on peut avoir dans la vie de santé, digestif et autres, je me dis, au moins, quand je serai un pur esprit, je n'aurai plus ces problèmes-là.
Mais vous avez quand même écrit, et c'est joli, que vous aimiez l'expression « rendre l'âme », parce que l'âme retournait au monde.
Mais oui, c'est ça. Moi, je vois la mort comme une forme de libération, parce que qu'est-ce qui meurt ? Pour moi, un être humain, pas seulement pour moi, pour, je sais pas, au moins la moitié de l'humanité, si ça n'est plus. La mort, l'être humain est un esprit ou une âme qui est incarné dans un corps. Et le corps, en tant que tel, il subit les lois de la matière. Donc, il a un début, un milieu, une fin, il s'use. Et puis, il finit par être HS, comme on dit aujourd'hui. Mais quand il est totalement HS, c'est-à-dire quand la mort survient, on rend l'âme. Ça veut dire que l'âme est libérée de cette prison matérielle dans laquelle elle était descendue, probablement parce qu'elle avait une mission ou une évolution à accomplir.
Ça, c'est passionnant. On en reparlera d'ailleurs de ça, de ce qu'on est venu. Enfin, j'espère.
Je ne sais pas si je peux vous dire plus que ce que je viens de vous dire.
Parce que vous l'écrivez. Vous l'écrivez oui. Dans un cadeau du ciel que nous avons une mission sur cette terre, c'est d'évoluer.
Ah oui, ça.
C'est bon, pas rien.
Mais on peut avoir des missions autres, enfin plus concrètes, au sens de, on peut avoir une mission auprès d'un groupe, par rapport à une science, par exemple. Grâce à tout ce qui m'est arrivé, je me suis intéressée, je m'intéresse toujours, c'est sans fin, là, ça sera jusqu'à la fin, je crois, à la physique.
Ouais.
Et quand on voit le nombre de génies qu'il y a eu dans ce domaine-là, donc on se dit qu'il y a en plus des êtres qui, dès leur plus tendre âge, un peu comme Mozart par rapport à la musique, dès l'âge de 4 ans, étaient capables de faire sur le plan mathématique des opérations qu'aucun adulte normal n'était capable de faire. Et il y a eu tellement de génies, et on se dit que ce sont des âmes qui se sont incarnées parce qu'elles avaient une mission à remplir pour que la science physique progresse.
Qui voudrait dire, en fait, Françoise Hardy, qu'il y a des gens, c'est pas possible que, si jeunes, ils arrivent à faire tellement de choses, c'est qu'ils ont déjà fait un tour, ils ont déjà appris,
oui, exactement.
Soit la musique, soit
exactement,
les maths.
Exactement. Je pense que quand on est surdoué déjà à l'âge de 3-4 ans, c'est qu'on n'en est pas à sa première incarnation, qu'il a dû y avoir bien des incarnations à celle-ci, à l'actuelle, qui vous ont préparé à ce que vous êtes.
Mais sans évoquer... Mozart ou Einstein ou un quelconque génie, on voit même déjà dans notre entourage qu'il y a des enfants qui ont une sagesse qui est assez impressionnante et à l'inverse, on voit des adultes immatures.
Mais oui, ils en sont peut-être à leur première incarnation, il va falloir qu'ils reviennent parce que en effet, moi je crois à cette, appelons ça une théorie qui veut qu'on est là sur Terre pour évoluer, que la Terre est une école. Alors, le guide spirituel auquel je me réfère dit que c'est une école initiatique extrêmement difficile.
Ah ouais.
Voilà, alors donc ces êtres qui semblent immatures sur certains plans, ils ne le sont peut-être pas sur tous les plans. Leur immaturité, de toute façon, va les amener à commettre certaines erreurs d'appréciation et autres, et à vivre des épreuves qui vont les obliger, bon gré mal gré, à voir les choses autrement et être un tout petit peu plus mûrs, un tout petit peu plus matures.
C'est comme ça qu'on apprend.
Même s'il me faut lâcher ta main, sans pouvoir te dire à demain, rien ne défera jamais nos liens. Même s'il me faut aller plus loin, l'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or. Tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel. Reviendront plus vite que tu ne crois. les montagnes, la source blanche dans ton âme. Prends ceci quand tu t'endors, l'amour est plus fort. Le plus beau des mystères. Pense-y quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la mort.
Tant de belles choses, Françoise Hardy. Ça, c'est une chanson qui raconte quoi? Un adieu?
Oui, simplement, on était en janvier 2004 et on m'a diagnostiqué ce lymphome au tout début du mois. Et puis, au milieu du mois, je fêtais mon anniversaire avec une amie née aussi un 17 janvier. Et Thomas était là, et son père aussi. Et puis, à un certain moment, Thomas s'est éloigné et son ami m'a dit, voilà, il veut pas qu'on le voie pleurer, tout ça. Et ça m'a tellement bouleversée. Bon, en même temps, il y avait son grand-père qui l'aimait énormément, qui n'allait pas bien.
Oui, ça faisait beaucoup qu'il n'allait pas.
Ça faisait beaucoup. Mmh. Et donc, j'ai écrit ce texte sur cette très belle mélodie d'Alain Lubrano et de Pascal Daniel. Et le texte m'est venu tout de suite. Alors, le plus fort de tout, c'est que ni l'un ni l'autre n'ont voulu du texte. Ils l'ont refusé tout de suite. Ils ont dit, c'est pas possible, tu peux pas chanter un texte comme ça. Hein. Et j'ai tenu bon, parce que j'ai toujours su quand un texte était bien.
Ah ouais, ouais. Ça c'est quelque chose qui me fascine, dans tous les métiers. C'est-à-dire que quand on est sûr, parce que vous n'êtes pas prétentieuse, on peut vous reprocher beaucoup de choses, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi je peux vous reprocher beaucoup de choses, c'est une formule. Mais ça me fascine quand dans un métier, quelqu'un est sûr de ce qui est bon.
Oui, ouais. J'avais un autre problème avec un ami que j'aime beaucoup, que malheureusement je n'ai pas vu depuis longtemps, qui s'appelle Khalil Shaheen, qui est un grand guitariste. Et il m'avait amené une mélodie sublime. C'était, je sais pas, vers l'an 2000. Je m'étais dit, oh là là, jamais je vais arriver à écrire sur une aussi belle mélodie. Et puis finalement, j'ai écrit un texte qui s'est appelé Clair Obscur. Et j'étais contente, heureuse de mon texte. Et quand il est venu pour l'écouter, je l'ai vu qu'il se renfrognait de plus en plus. Ouais. Et il me regarde, il me dit, je déteste le mot amour, il faut absolument que tu l'enlèves. Et moi, j'étais sûre, je ne pouvais pas. Ouais. Vous savez, il y a des textes, on sait que, voilà, tel mot,
on
aurait pu trouver mieux, mais on n'a pas trouvé. Mais là, je savais que tout y était, il ne fallait rien changer. Il a fait entendre à des amis à lui, et ses amis lui disent, mais il ne faut rien changer. Alors, finalement, il s'est plié à la volonté générale.
C'est cette notion de juste. Ça vaut, je pense, pour la musique, ça vaut pour la cuisine, ça vaut pour la science.
Oui,
à un moment donné, c'est juste.
Mais oui, tombe. on sait ça. Oui.
C'est drôle d'ailleurs parce que dans vos livres, pas spécialement le cadeau du ciel, le dernier, mais le désespoir des singes, vous racontez beaucoup. Pour nous, profanes, c'est très amusant, la fabrication d'une chanson. Ce que vous venez d'évoquer, la discussion entre différents artistes, pas des rapports de force, mais quand même des négociations. Bah, ça ne se fait pas comme ça.
Non. Mais la première chose, justement, c'est d'avoir une mélodie inspirée. Moi, je ne peux pas écrire dans le vide. Ça m'est arrivé un peu il y a fort longtemps, au début. Moi, au début, je faisais mes petites mélodies. Et donc, la petite mélodie et le texte venaient un peu en même temps. Puis après, quand j'ai pris conscience que j'étais pas assez calée en musique pour évoluer musicalement, donc je me suis adressée aux meilleurs mélodistes auxquels je pouvais m'adresser. Et donc, quand une chanson est vraiment inspirée, et ça aussi, il faut pouvoir le détecter, parce que il y a des chansons qui ont l'air d'être inspirées, mais elles sont seulement fabriquées. Il faut pouvoir faire la nuance. Une très belle mélodie, déjà, alors, à la fois, vous êtes tétanisé à l'idée que vous n'allez jamais pouvoir être à la hauteur de cette belle mélodie, mais en même temps, elle vous souffle presque le texte.
Elle vous intimide et elle vous porte en même temps.
Oui, oui.
Vous êtes drôle,
François. C'est ça le secret.
Vous êtes curieuse parce que Il y a une énorme pudeur. Françoise Hardy, on ne vous voit pas en culotte à la une du magazine Voici sur des plages. C'est vrai. Ou alors donner. C'est jamais. Et en même temps, vous dites des choses, mais privées, quand même. La mort, moi, il y a plein de gens dont je sais plein de choses, mais je ne sais pas quel rapport ils ont à la mort. Je ne sais pas s'ils croient en Dieu ou pas. Je ne sais pas comment ils sont quand ils sont amoureux, quand ils sont tristes. Et vous, ces choses très enfouies, vous les dites.
Ben, je l'ai dit parce que je trouve que ça a de l'intérêt, pas par rapport à moi, mais dans l'absolu. J'essaie d'aller vers ce qui est intéressant dans l'absolu. Quand je reprends à mon compte cette idée que la Terre est une école et que nous sommes là pour grandir, pour évoluer, et que souvent ça se fait à coup d'épreuves et de souffrances pour qu'on arrive à comprendre quelque chose qu'on n'a pas compris, et que notre vision des choses et du monde s'élargisse et qu'on s'élève, nous, du même coup, sur l'échelle de l'évolution. Je pense que c'est quelque chose qui vaut dans l'absolu et qu'il est bon de dire, qu'il est bon de répéter le plus possible. On n'est pas là pour rien. Moi, je suis convaincue de ça.
Et pourquoi les gens ne le disent pas plus? Parce qu'ils ne savent pas le dire. Vous avez le talent de trouver les mots parce qu'ils n'y pensent pas.
Parce que moi, je n'aurais pas pu dire ça quand j'avais 20 ans. C'est petit à petit. Enfin, cela dit, j'ai toujours eu un côté un peu mystique. Bon, et puis ça s'est développé aussi avec le temps. Mais tout dépend sur quelle longueur d'onde vous êtes aussi.
Moi, je suis assez impressionnée de penser que je sais si peu sur ces questions à propos des gens qui m'entourent. Mais il y a des gens que je connais très bien, je ne sais pas s'ils croient en Dieu, je ne sais pas à quoi ils croient après la vie.
Vous savez, c'était en l'an 2000 aussi, j'ai eu cette sorte de coup de foudre pour Hélène Grimaud, enfin, comme si c'était un ange descendu du ciel. Et du coup, je me suis intéressée davantage à la musique classique. Enfin, je connaissais déjà, par exemple, j'ai toujours adoré le concerto numéro 2 de Rachmaninov. Mais le fait d'écouter davantage de musique classique, et je suis toujours portée vers les concertos pour piano ou pour violon. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a des adagios. Le concerto numéro 2 de Rachmaninov, il est absolument sublime de bout en bout pour mon goût. Hein. Je suis pas mélomane. Mais chaque fois qu'il y a des thèmes mélodiques extraordinaires qui vous transcende littéralement. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'à ce moment-là, le compositeur, il était connecté à une autre dimension que la dimension humaine. Et j'ai été très intéressée de lire donc dans un livre de Cyril Scott, qui était quelqu'un de très passionné d'occultisme, de théosophie, etc., que Brahms, dont j'adore les deux concertos pour piano, c'est une splendeur, avait déclaré peu de temps avant sa mort, et il avait expressément demandé qu'on ne le répète pas, enfin finalement ça a été répété, mais que chaque fois qu'il se sentait inspiré, il avait l'impression qu'une force invisible, inconnue, lui dictait certaines choses. Moi, j'ai toujours perçu ça et j'ai toujours pensé aussi que, vous voyez, vous avez des très grands compositeurs qui sont morts prématurément ou qui sont morts fous. Et je me dis que c'est parce que cette dimension de transcendance, qu'on peut appeler aussi la dimension divine, elle est trop forte pour l'esprit humain. C'est comme si vous étiez une ampoule qui fonctionne, je ne sais pas, à 80 volts, et puis d'un seul coup, il faut vous brancher à un courant beaucoup plus fort. Et ça n'est pas évident. C'est un peu comme les médiums, d'ailleurs. Hein. Les médiums, les vrais, il ne doit pas y en avoir des masses, des vrais médiums. Mais quand ils sont en médiumnité, ils se connectent à quelque chose qui dépasse l'humain. Oui.
Comme si c'était hier, comme si l'endroit faisait l'envers, comme si les images s'arrêtaient et que les belles heures défilaient. C'est comme si c'était demain, comme si le soir venait le matin. Comme si la grande roue tournait et que l'horloge s'enrayait.
pourrait pointer l'avant, comme si qui sera était, et que la mécanique s'essoufflait. Le temps passe, on est vite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on est vite, ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était fini, comme si la mémoire servait l'oubli, comme si nos rêves souvenaient pas, et que le réveil ne sonnait pas. C'est comme si c'était toujours, comme si nos nuits étaient nos jours, comme si le soleil vous détoie, et que les étoiles ne brillaient pas. Passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite. Ne passons pas trop vite.
C'était Gaëtan Roussel et Rachida Brakni. Rachida Brakni.
Très, très, très jolie. Excusez-moi de vous interrompre.
Non, tant mieux.
Oui, oui, franchement, oui. C'est très bien.
Vous le connaissez, Gaëtan Roussel ?
Très peu.
Et vous trouvez ça joli ?
Ah oui, je trouve ça une très, très bonne chanson.
Comment on sait, Françoise Hardy, si une chanson est bonne ?
Je crois que c'est un sens qu'on a. Enfin, il me semble que c'est évident. Il n'y a pas de...
pour moi.
Donc, je vais pouvoir replacer une fois de plus le fait que la chanson est un art mineur, mais il y a des chansons sont inspirées. Mmh. Et tout de suite, ça vous émeut, ça vous plaît. Ah oui, vraiment.
Moi, je sais que j'ai envie de la réécouter. Je peux être...
Ah bah, c'est ça. La magie, c'est quand on a envie de réécouter. Et quand on remarque, je vous ai tout de suite demandé ce que c'était, parce que ça m'a accroché tout de suite.
C'est vrai, tout de suite, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est vachement bien. Donc Gaëtan Roussel que vous aimez, et la petite Rachida Brakni, enfin je dis petite parce qu'elle est jeune, hein, qui était dans le L d'ailleurs cette semaine.
Oui, vous l'avez vue, j'aime beaucoup cette fille, je la connais pas, mais elle dégage quelque chose de bien.
Oui. Oui. Elle dégage quelque chose de sympathique, et elle va jouer, je crois, en Un seul Dieu, à Angoulême, donc à partir d'après-demain, les 7 et 8 mars, et puis à Paris, au Théâtre du Rond-Point, jusqu'au 9 avril. C'est pas mal ces jeunes quand même qui sont artistes à plusieurs facettes eux aussi. Hein.
Ah mais oui, ouais. Ça c'est le rêve d'avoir plusieurs cordes à son arc et de savoir les utiliser aussi bien les unes que les autres.
Dans ce dernier livre, Françoise Hardy, Un cadeau du ciel, qui est édité chez Équateur, vous évoquez Trine Xuan-Tuan, qui est un ami d'amis que vous avez un peu connu. En vrai,
je le connais toujours. Il cherche à se faire naturaliser français, là, figurez-vous. Et donc, je sais qu'il va être là cet été. Donc, on espère bien dîner ensemble, au moins une fois.
Donc, vous parlez de l'homme avec lequel vous avez effectivement déjà beaucoup dîné. Et puis aussi du scientifique que vous avez lu, ce qui n'est pas si facile que ça, d'ailleurs. Parce qu'il faut s'accrocher.
Oui, il faut s'accrocher, je vous le confirme. J'ai toujours pas fini son dernier livre, que je recommande à tous les gens qui s'intéressent au mystère du monde, la plénitude du vide. C'est incroyable tout ce qu'on apprend dans ce livre. Mais il y a en effet des passages sur le boson de Higgs. Oui, où il faut s'accrocher. Mais bon, si on a suffisamment de ténacité, on finit par comprendre. Il faut persévérer. Voilà.
Mais c'est de vous qu'il le tient. Vous vous demandiez au début de l'émission d'où votre fils Thomas tenait son don pour les matchs.
Pas du tout. Mais au contraire. Les maths, j'ai toujours été bonne en français et en langue, mais très mauvaise en maths et très mauvaise en physique, chimie. Alors qu'aujourd'hui, je trouve ça absolument passionnant, grâce à des astrophysiciens comme Trinh Xuan Tuan, qui a écrit des livres de vulgarisation extraordinaires, qui à la fois vous instruisent et en même temps vous fascinent, vous font rêver. Grâce aussi à Étienne Klein, dont j'ai lu 3 livres à lui, c'est formidable. Et le dernier, Le pays qu'habitait Einstein, pour la première fois, j'ai compris de quoi il retournait. Enfin, j'ai compris, grosso modo, avec la relativité restreinte et avec la relativité générale.
Alors, revenons à Trinh Xuan Tuan.
L'appelle Tuan. Son prénom, c'est Tuan. Au Vietnam, le prénom arrive en dernier.
Ah, c'est Hardy Françoise.
Voilà, ça serait... Oui, voilà.
Ah, je ne savais pas. En plus, Tuan, pour nous,
c'est plus simple que Trinh Xuan Tuan.
Si vous voulez bien, écoutons-le au cours d'une conférence pour le CERA, c'est-à-dire le Centre d'échange et de réflexion sur les questions d'avenir. C'était en 2011.
C'est difficile pour moi de croire que tout ce qui se passe dans cet univers est hasard. Je voudrais seulement terminer en citant un autre poète français qui dit que le silence éternel des espaces infinis ne m'effraie plus. Je m'y promène avec une confiance familière. Nous n'habitons pas un coin perdu d'un désert farouche et impraticable. Tout dans le monde nous est fraternel et familier. Nous partageons tous la même généalogie cosmique. Nous sommes tous frères des bêtes sauvages et des coquelicots des champs.
Le poète dont il parlait, c'est
Claudel. Lui-même est très poète.
Ah oui.
Trouve. Hein, son écriture est souvent très poétique, très belle.
En fait, il dit que nous faisons tous partie du même monde, les animaux, les plantes, les pierres.
Enfin, ça, c'est une évidence.
Bah, pas pour tout le monde, Françoise Hardy. L'humain n'est pas supérieur aux autres.
Ben, ça dépend comment vous interprétez le terme de supérieur. Mais ça n'est pas tout à fait le même niveau de conscience. Parce que donc il y a plusieurs règnes sur Terre. Il y a le règne minéral. Ensuite, vous avez le règne végétal, animal et humain. Donc c'est pas tout à fait le même degré de conscience.
Oui, mais les autres ne sont pas pour autant méprisables.
Mais c'est vrai qu'on a besoin absolument les uns des autres. S'il n'y avait que l'homme sur Terre et rien d'autre, pas de plantes, pas de végétaux, pas d'animaux, on ne pourrait pas exister sans eux et eux sans nous, probablement. Enfin, quoique la Terre toute seule pourrait tout à fait exister sans nous. Ce qui est très curieux quand on lit les livres de vulgarisation physique, c'est que on a l'impression, alors c'est une impression un peu prétentieuse, anthropomorphique, que tout a été fait pour l'apparition de l'être humain. Parce que, il y a ce qu'on appelle en physique les constantes. Il y a plusieurs constantes qui concernent les lois incontournables qui régissent l'univers. Et ces constantes sont d'une précision qu'on a envie de qualifier de diabolique.
Mais oui.
Mais si elles avaient été très légèrement différentes, il n'y aurait pas eu la vie. Il y aurait eu les rochers peut-être, mais il n'y aurait pas eu la vie. Donc il n'y aurait pas eu les plantes, il n'y aurait pas eu les animaux, il n'y aurait pas eu les êtres humains.
C'est là qu'on se pose la question quand même. Il faut bien qu'il y ait un grand horloger pour que
voilà,
tout ça soit
mais
si
c'est
bien.
C'est ce que Trinh Xuan Tuan pense. Pourtant, il est bouddhiste et dans le bouddhisme, on réfute la notion de principe créateur. Pour le bouddhisme, il n'y a ni commencement ni fin. Actuellement, au point où en sont les découvertes en physique, on ne peut pas parler d'origine du monde. On ne sait pas ce qu'il y avait avant le Big Bang. Et on ne peut pas le savoir. Et Étienne Klein, d'ailleurs, si je l'ai bien lu, bien compris, pense qu'on ne le saura probablement jamais.
D'ailleurs, à propos du mystère, vous écrivez que finalement, ce n'est pas tellement important de croire en Dieu ou pas, ou
oui.
De pratiquer
L'important, c'est évidemment la manière dont on se comporte. c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est, c'est voilà. Parce qu'on n'a pas besoin de croire en Dieu pour évoluer, pour progresser. Quelqu'un qui croit en Dieu et qui n'évolue pas, qui ne progresse pas, aux yeux de Dieu, si Dieu existe, mais dans l'absolu tout court, il sera beaucoup moins intéressant et beaucoup moins précieux que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui évolue et qui progresse.
C'était Gorillaz, Feel Good.
Noël Bréham, État d'esprit sur France Inter.
Françoise Hardy, nous savons tous que vous êtes astrologue, mais vous dites cette chose étrange, c'est que les pratiquants de l'astrologie et les détracteurs de l'astrologie disent à peu près le même nombre d'âneries à propos de l'astrologie. Moi, je pensais qu'il y avait les pour et les contre, point. C'est plus
mais
compliqué
oui,
que ça.
Parce que la plupart du temps, les gens qui pratiquent l'astrologie, y compris sur des ondes radiophoniques, ne savent absolument pas sur quoi l'astrologie repose. Et la seule astrologie qui est donnée une explicative de tout ce qu'on dit en astrologie, elle se réfère vraiment au système solaire. Normalement, l'astrologie occidentale, elle est uniquement, strictement, basée sur les rythmes et les cycles du système solaire.
Donc l'astronomie.
Oui. C'est la base. Les réalités astrophysiques doivent être la base de l'astrologie, qui extrapole à partir des réalités astrophysiques. Mais si on laisse ces réalités astrophysiques de côté, ça va pas. On dit absolument n'importe quoi. On parle de 13e signe, par exemple.
Ça, c'est n'importe quoi.
Bah, c'est n'importe quoi, parce que le système solaire, la Terre, elle met un an à tourner autour du Soleil. Ça veut dire il y a 12 mois, il n'y en a pas 13.
Oui, voilà, c'est comme ça.
Et chaque signe a un rythme spécifique. Et il n'y a pas, après le 12e signe ou au milieu du 12e signe, d'un seul coup, à la moitié du 12e signe, un autre qui vient avec un autre rythme, non.
C'est peut-être pas une science exacte, mais c'est une science rigoureuse.
Ah mais oui, c'est une science qui ne vaut qu'à partir du moment où les références sont rigoureuses. Et ça, très peu de gens les ont. Moi, j'ai eu la chance inouïe de rencontrer Jean-Pierre Nicolin. C'est lui qui a donné ses fondements astrophysiques à l'astrologie et qui a expliqué le symbolisme et qui en même temps l'a épuré des signes et des planètes à partir de leur réalité astrophysique.
Alors Françoise Hardy, les détracteurs de l'astrologie disent « Mais moi, je suis née le 17 mai et je n'ai pas du tout le même caractère que mon voisin qui est né le 17 mai aussi. »
Voilà. Alors l'astrologie de Jean-Pierre Nicolas, qui est la seule en laquelle je crois, il l'a intitulé au début « Astrologie conditionnelle ou conditionnaliste ». Parce qu'il faut jamais oublier que le ciel de la naissance est un conditionnement parmi des tas d'autres. Alors c'est un conditionnement très particulier, c'est très particulier que tout se passe comme si votre système nerveux gardait l'empreinte des rythmes du système solaire au moment où vous vous y êtes exposé pour la première fois. C'est un peu comme ça que les choses se passent.
Mais il y a le conditionnement de l'éducation.
Voilà, il y a des tas d'autres conditionnements. Il y a le conditionnement génétique d'abord, bien le sûr. Conditionnement familial, le conditionnement socio-culturel, géographique, historique et tout ce que vous pouvez imaginer. Et la résultante de tous vos conditionnements divers va vous faire actualiser le conditionnement céleste différemment. Et puis, il ne faut jamais oublier non plus que vous pouvez être né le même jour, mais pas à la même heure. Or, l'interprétation est pas au même endroit. Et l'interprétation d'un ciel natal, donc de ce conditionnement très particulier, elle ne repose pas que sur le signe solaire. Elle repose aussi sur le signe ascendant. Et pour connaître son signe ascendant, il faut savoir à quelle heure on est né. Mais il n'y a pas que le signe ascendant, il y a aussi les dominantes planétaires qui sont tributaires de l'heure à laquelle vous êtes né. Alors, si vous êtes né à la culmination du soleil ou d'une planète, ou au lever du soleil ou d'une planète, ou au coucher, vous voyez, à un des angles de ce ciel, vous allez être très conditionné aussi par ces planètes ou par le Soleil du fait qu'ils étaient angulaires à votre naissance. Et pour ça, il faut connaître aussi le symbolisme des planètes et du Soleil, à partir donc de leur réalité astrophysique, pour pouvoir en interpréter les prédispositions au travers de la fonction qui est la leur.
Pas facile à exposer. En fait, si je vous ai fait parler de ça, c'est que dans votre livre, le dernier, Un cadeau du ciel, Françoise Hardy, qui est édité chez Équateur, vous dites que sans être bouleversé, vous êtes quand même un peu peiné quand les gens réfutent l'astrologie avec un petit sourire un peu moqueur, un peu de condescendance, en n'y connaissant absolument rien. C'est-à-dire qu'ils balayent.
Oui, il y a des, mais on a tous, moi la première, des a priori, des préjugés, des choses comme ça. En effet, je trouve que ce n'est pas une attitude scientifique. On ne peut juger, évaluer que ce qu'on a étudié, vraiment. Et encore, on peut étudier l'astrologie au travers de très mauvais livres et se dire « ça ne vaut rien ». Il faut avoir la chance, comme moi, de tomber sur les livres. Moi, je suis tombée directement sur leur auteur, Jean-Pierre Nicolas, sur les livres de Jean-Pierre Nicolas et sur ceux des quelques disciples qui ont repris le flambeau. Enfin, lui est toujours là et puis continue d'écrire. Mais il faut tomber là-dessus pour pouvoir se faire une idée de la valeur ou non de l'astrologie.
On est prompt à juger, hein, sans savoir. Dans beaucoup de domaines.
Oui, dans tous les domaines.
Merci Françoise Hardy d'avoir passé ce dimanche soir avec nous. Donc je renvoie à votre livre, Un cadeau du ciel, chez Équateur, mais aussi les autres que vous trouverez sur le site d'État d'Esprit.
Merci à vous, c'était un plaisir.
La semaine prochaine, nous recevrons Sabrina Philippe pour son livre « Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part », édité chez Erol. Alors attention, il n'y a que des Capricornes en régie, à part Emmanuel Fournier. Simone de Poux et Stéphane Poitevin sont tous les deux Capricornes.
Emmanuel... Pauvre de vous.
Ascendant Vierge, me dit Simone. Pauvre de vous.
Moi aussi. Alors doublement pauvre.
Nous sommes cernés. Muriel Pérez, je ne connais pas son signe, mais je sais qu'elle s'est chargée de la programmation musicale. Emmanuel Fournier a préparé l'émission. Merci à elle. Nous nous retrouverons donc, je l'ai dit, la semaine prochaine. Mais d'ici là, vous pouvez podcaster cette émission, l'écouter quand bon vous semble ou bien la partager avec vos amis. Et Brigitte Patient, vous la retrouverez après les informations. Elle recevra Michel Frisot au sujet de l'exposition Joseph Koudelka au Centre Georges Pompidou.